Vous êtes bien sur RFI, Radio France Internationale. Il est 9h30 ici à Paris, 7h30 en temps universel.
Xavier Besson.
L'actualité africaine ce matin, et on vous explique dans un instant ce qui s'est dit hier au Palais de l'Élysée, où le président français Emmanuel Macron a reçu son homologue du Rwanda, Paul Kagame. Dans ce journal également, la mémoire du 8 mai 1945, jour de fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, mais jour du début en Algérie d'un mouvement de répression au cours duquel l'armée française a tué au moins 20 000 Algériens. Là, la Centrafrique, avec des violences à nouveau signalées dans la région du Mbomou, c'est dans le sud-est. Le Soudan, où l'agence France-Presse rapporte de nouveaux bombardements ce matin sur la ville de Port-Soudan. Et puis le Kenya, à Nairobi, 4 hommes ont été condamnés hier à une forte amende pour avoir tenté de faire sortir illégalement des fourmis du pays. Le président rwandais était donc à Paris hier, visite officiellement privée à l'occasion de la demi-finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, deux équipes partenaires de Kigali via le sponsor Visit Rwanda. Pas de communication hier à l'issue de la journée, pas de communication non plus à l'issue de la rencontre avec le président français, mais d'après nos informations, les questions des relations entre les deux pays, la France et le Rwanda, ont été abordé. Question aussi de la relation avec la République démocratique du Congo. Patient Ligodi.
Une visite d'abord privée, confirme le Quai d'Orsay et des sources officielles rwandaises. Le président Paul Kagame était dans la capitale française au moment où se jouait la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, deux clubs européens sponsorisés par la marque Visit Rwanda. Mais cette présence a aussi donné lieu à une séquence plus politique. D'après nos informations, certains sujets bilatéraux ont été évoqués. Parmi eux, le projet d'un mémorial à Paris dédié au génocide des Tutsis. D'autres projets, financés par l'Agence française de développement, sont également en cours. Sur ces points, la France avait annoncé avoir suspendu la signature des nouveaux projets d'aide au développement en raison de ce qu'elle qualifie de soutien rwandais à l'AFC M23. Aujourd'hui, les autorités rwandaises assurent qu'aucun projet FD n'est suspendu. Elle salue même la position française sur la crise entre Kigali et Kinshasa. Cette crise régionale a bien été abordée hier entre Emmanuel Macron et Paul Kagame. La France fait partie du groupe de contact mis en place pour accompagner les efforts de paix dans la région de Grand Lac, dans un dispositif piloté par les États-Unis. Depuis le début de la crise, Paris a tenté à deux reprises de rapprocher les présidents Tshisekedi et Kagame, et les échanges se poursuivent directement entre la présidence française et les deux capitales.
Patient Ligodi. Et à propos de la République démocratique du Congo, sachez que le PPRD, c'est-à-dire le parti politique de l'ancien président Joseph Kabila, fait savoir qu'il entend reprendre ses activités politiques. Le PPRD qui a été suspendu par un arrêté du ministère de l'Intérieur il y a 2 semaines, alors que l'ancien chef de l'État est soupçonné par les autorités congolaises de lien avec les rebelles de l'AFC M23. Le PPRD estime aujourd'hui que la mesure de suspension ne durait que 2 semaines. Et puis ce matin, notre invité Afrique était l'opposant Martin Fayoulou. Avec lui, on a parlé de stratégie face au conflit dans l'Est. On a parlé aussi des relations avec le président Tshisekedi et avec les autres opposants. Entretien à retrouver sur RFI.fr.
RFI.
C'est en quelque sorte l'autre 8 mai 1945, au moment où en Europe, les forces alliées, dont la France, fêtaient la capitulation de l'Allemagne nazie et donc la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale. En Algérie, l'armée française et des milices de colons réprimaient très violemment des manifestations à Sétif et dans les environs de Constantine, et des violences qui allaient se poursuivre jusqu'au mois de juin et faire jusqu'à 30 000 morts algériens. Et à l'occasion du 80e anniversaire de ces massacres aujourd'hui, le photographe Abeid Abedat réédite un livre de témoignages et de portraits de personnes qui ont vécu ces massacres. Et aujourd'hui, son travail contribue à ne pas oublier une période qui est encore dans l'angle mort de la politique mémorielle française.
La raison pour laquelle moi j'ai réalisé ce travail de témoignage, de portrait des Algériens qui ont vraiment vécu et qui ont vu ce qui s'est passé le 8 mai 45 et après aussi le 8 mai 45, ça a duré plusieurs mois. Je l'ai su il y a à peu près 20-25 ans, donc j'étais adulte. Hein, et moi, par curiosité, je décide d'aller sur le terrain et d'aller rencontrer ces témoins vivants. Donc, c'est un projet qui date de presque 25 ans. Et donc, les témoins vivants, ben, ils avaient tous 80, 90, puisqu'à l'époque, ils avaient entre 16 ans et 18 ans. Aujourd'hui, en 2025, la quasi-totalité des témoins vivants ont disparu, ils sont morts. Voilà. Et donc moi, mon sentiment, c'est que comment se fait-il qu'on ne connaisse pas cette histoire ? Il a existé dans des histoires de la colonie française et compagnie, des périodes très noires. Et là, il est temps d'en parler, il est temps de pouvoir exorciser tous ces faits pour pouvoir avancer dans le futur. Ce livre, tout simplement pour pouvoir montrer des visages, laisser des traces et puis faire connaître cette histoire.
Le photographe Abed Abeidat, joint par Ouda Ibrahim. RFI, 8h35 à Bangui, en Centrafrique. On ne sait pas ce matin combien de victimes ont fait les affrontements ces derniers jours dans la région du Ombomou, mais on sait que des violences secouent de nouveau cette région du sud-est du pays. Des combattants issus de la communauté Zandé ont repris les armes et s'en prennent aux militaires centrafricains ainsi qu'aux mercenaires russes de Wagner dans les zones de Zemio et de Mboki. Il y a un an, pourtant, ils avaient signé un accord pour intégrer l'armée et être formés par les Russes. Précision et explication avec François Mazet.
Le 1er mai 2024, une centaine de membres du groupe d'autodéfense Azandé Anik Pigbé avaient enfilé des uniformes neufs de l'armée centrafricaine sous la supervision des mercenaires russes récemment déployés dans la zone pour la pacifier. Un an plus tard, l'accord a fait long feu. L'oisiveté a poussé de nombreux miliciens à reprendre la brousse et après des semaines de tensions, ils ont pris pour cible les FACA et leurs anciens formateurs de Wagner le 30 avril et les jours suivants. Selon plusieurs sources, la cause de ce passage à l'acte serait la multiplication d'arrestations au sein de la communauté Zandé, y compris des chefs de village et des responsables de quartiers violentés. Il y aurait aussi une dimension économique sur fond d'accord entre les Russes et les cadres de groupes armés Peul qui contrôlent l'élevage dans la région. Selon l'ONU, la situation a entraîné le déplacement de 10 000 personnes, dont la moitié a traversé le Mbomou vers la RDC. Après l'accalmie à Zemio, c'est Mboki, à une centaine de kilomètres de là, qui vit au rythme des tirs d'armes automatiques depuis mardi soir, avec des pillages et des incendies d'habitations, provoquant là aussi un afflux de déplacés.
François Mazet, et sachez par ailleurs que la MINUSCA, la force de l'ONU en Centrafrique, nie toute opération commune avec Wagner. Cela après que le groupe de mercenaires russes a publié des photos de ses hommes en compagnie de casques bleus. Dans l'actualité des pays africains ce matin également, le Mali, les militaires au pouvoir à Bamako suspendent jusqu'à nouvel ordre et officiellement pour des raisons d'ordre public, les partis et les associations à caractère politique. Alors que les partis politiques maliens craignent d'être dissous. Ils ont mobilisé samedi à Bamako et prévoient une nouvelle manifestation demain. La Libye et le gouvernement de Tripoli qui dément avoir passé un accord avec les États-Unis en vue d'accueillir des migrants expulsés. Hier, dans le même temps, un juge américain a bloqué, au moins temporairement, l'expulsion d'étrangers asiatiques en situation irrégulière. Le juge estime que ces expulsions les priveraient d'une opportunité significative de se défendre devant la justice. Au Soudan, l'agence France-Presse fait état ce matin de nouveaux bombardements, comme ces quatre derniers jours sur la ville de Port-Soudan, là où le gouvernement soudanais s'est installé en raison de la guerre depuis maintenant plus de 2 ans. Des raids attribués au FSR du général Hemeti, rival du président de la transition Abdel Fattah al-Burhan. Et alors que les autorités soudanaises accusent les Émirats arabes unis de soutenir les FSR, elles vont même désormais plus loin en affirmant qu'Abu Dhabi a directement bombardé le territoire soudanais. Le Soudan, on en parle aussi ce matin, au cinéma avec la sortie en salle du film « Soudan, souviens-toi », documentaire de la réalisatrice franco-tunisienne Hind Medeb qui nous ramène en 2019 au moment du soulèvement populaire contre le régime du président d'alors Omar el-Béchir, Elisabeth Lequéré.
Au Soudan, la guerre civile qui fait rage depuis 2023 a presque éclipsé le bref printemps révolutionnaire qui, en 2019, mit fin à 3 décennies de dictature. La force du film de Hind Medeb tient à son approche très humaine, car ce sont de jeunes militants qui deviennent les visages de cette révolution, tissant un récit collectif qui montre comment la résistance peut être à la fois politique et artistique.
Quand je suis arrivée, je ne connaissais personne, j'avais juste quelques contacts qui m'avaient été donnés par les amis soudanais à Paris, mais c'est vraiment au fil de ma caméra qui se promène sur le sitting à Khartoum qu'à chaque coin de rue, je rencontre des artistes extraordinaires qui ne sont pas forcément très connus. Tous les gens que vous voyez dans le film qui chantent, qui peignent, qui composent, qui réfléchissent, sont des citoyens ordinaires, anonymes.
L'espoir des premiers mois, vient la répression et les prémices d'une guerre civile sanglante. Reste cet hommage vibrant à une jeunesse qui refuse de se taire.
Elisabeth Le Quéré du service culture de RFI. Enfin, au Kenya, hier, la justice a condamné 4 personnes à une amende de plus de 7 500 $. 2 adolescents belges, un vietnamien et un kenyan, jugés ensemble, mais dans 2 affaires différentes, de tentative d'exporter illégalement des fourmis. Ils avaient été arrêtés le mois dernier, en possession pour les 2 premiers de plusieurs milliers de spécimens, pour les 2 autres de plusieurs centaines. À Nairobi, Alban Tiroir.
La Cour continuera de faire tout son possible pour protéger la vie sauvage au Kenya, déclaration de la magistrate Jerry Tuku lors de la lecture de sa condamnation. 7 700 $ d'amende ou 1 an de prison, soit la peine minimale prévue par la loi. Les 4 accusés ont plaidé coupables de possession de fourmis, mais affirment ne pas savoir que leurs actions allaient à l'encontre de la loi. Au Kenya, pourtant, toute possession ou exportation d'espèces sauvages sans permis est illégale. Les fourmis collectées sont des mésorcéphalotes, une espèce très prisée des collectionneurs en Europe et en Asie pour sa taille et sa couleur rouge notamment. Une reine peut valoir aux alentours d'une 100 000 €. La justice considère le ressortissant vietnamien comme une mule, envoyée à Nairobi pour rencontrer un contact kényan et récolter les précieux insectes. Dans l'autre affaire, les 2 jeunes Belges ont eux expliqué avoir voulu collecter les fourmis pour leur propre loisir, mais selon la magistrate, être en possession de 5 000 fourmis reines va au-delà du loisir. L'Agence de protection de la vie sauvage a salué une condamnation qui envoie un message clair. Le Kenya ne faiblira pas dans sa lutte contre les crimes envers la vie sauvage, peu importe l'espèce concernée. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
À Nairobi, au Kenya, où il est maintenant 10h42, et vous êtes avec Andréane Mellard pour la suite d'RFI Matin.